Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Oui, je sais, ça vous rappelle beaucoup de choses. Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Un rapport inquiétant ce matin.
Oui, celui publié hier par le Défenseur des droits, l'autorité administrative indépendante, chargée de veiller à ce que l'État et les administrations respectent les droits et libertés de chacun. Or, le bilan de l'année 2023 est mauvais. Les atteintes aux droits se sont banalisées, l'État de droit est fragilisé à un degré préoccupant. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour.
Vous êtes la Défenseur des droits, à la tête de l'autorité indépendante du même nom. J'aimerais qu'on commence par l'analyse des 137 894 réclamations qui vous sont parvenues cette année. 67% concernent les relations avec les services publics. Quelles sont les difficultés rencontrées par les usagers?
Et d'abord, effectivement, ces réclamations sont en augmentation constante et c'est ça qui nous fait dire que nous observons des atteintes aux droits qui vont en augmentant, une fragilisation des droits et une forme de banalisation. C'est-à-dire que je trouve qu'on s'habitue. Et majoritairement, effectivement, dans ces réclamations, ça concerne des problèmes d'usagers de services publics. Ça veut dire très concrètement des personnes qui sont en difficulté pour toucher leur pension de retraite. Nous avons des réclamants qui mettent 6 mois, 1 an, 18 mois à toucher leur retraite, c'est même 2 ans aux Antilles, donc ils sont sans revenus pendant ce temps-là. C'est des difficultés avec l'assurance maladie, avec la CAF, avec Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, avec les préfectures sur des renouvellements par exemple de cartes de séjour ou des premières demandes. Et nos délégués, vous savez qu'on fonctionne avec à la fois des agents 250 et 600 délégués qui sont sur le territoire et qui accueillent les réclamants en présentiel et qui font de la médiation avec ces services publics. Dans 80% des situations dont on est saisi, on part, je dirais, en médiation, et dans les trois quarts des cas, ça aboutit. Donc nous, on rétablit les personnes dans leurs droits, on crée de la cohésion sociale, et je dirais, on fait démocratie en faisant ça. Mais mon inquiétude, effectivement, et c'est ce que je veux faire passer dans ce rapport, c'est qu'on a une forme de banalisation de ces atteintes aux droits et une augmentation, et qu'il faut absolument, je dirais, redresser la barre.
Vous avez mentionné les Antilles, les difficultés d'accès aux services publics, ce double d'inégalités territoriales. Les Outre-mer sont les plus touchés, avec peut-être une mention spécial pour Mayotte?
Oui, et alors on a surtout rendu d'abord dans l'année 2023, au mois de mars, un rapport sur l'accès aux services publics aux Antilles. Et qu'est-ce qu'on a observé? Donc des difficultés dont je vous parlais, mais aussi des difficultés d'accès à l'école. C'est-à-dire, à cause de problèmes de transport, de grève, d'événements climatiques, il y a 20% d'heures de cours en moins aux Antilles. Si vous prenez sur le primaire, ça fait une année de scolaire en moins. Ça, c'est une forme d'inégalité. Et vous avez raison de dire que la situation est encore plus aggravée aux Antilles, avec les mêmes difficultés d'accès aux services publics, des enfants qui ne sont pas scolarisés. Et nous rendrons des décisions sur toutes ces thématiques pour ce qui est de Mayotte dans la fin de l'année 2024.
Votre mission, c'est de pointer les obstacles que rencontrent les citoyens dans la jouissance de leurs droits. Votre rapport montre combien les personnes les plus vulnérables se trouvent en première ligne. Les migrants, les pauvres, les minorités, les enfants, les vieillards, ce sont les premiers touchés. Qu'est-ce que cette violence grandissante à l'égard des plus fragiles dit de notre société, à votre avis?
D'abord, ce qui nous frappe à chaque fois, c'est que c'est la vulnérabilité qui crée la possibilité d'atteinte aux droits. On l'avait vu dans le rapport qu'on avait rendu sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD. C'est bien leur vulnérabilité qui crée des possibilités d'atteinte aux droits. Et vous voyez bien qu'en parallèle, qu'est-ce qui est mis? C'est les moyens qu'on y met, humains et financiers. Et je veux dire, le respect des droits peut pas être une variable d'ajustement de la question des moyens financiers. Et donc, effectivement, vous les avez cités, c'est à la fois des personnes âgées, des enfants, des personnes précaires, des étrangers qui sont en situation de vulnérabilité et dont les droits sont atteints. Dans une démocratie, qu'est-ce qui nous protège? C'est justement de savoir que quand on peut se retrouver en situation de vulnérabilité, on a des droits qui nous protègent. Et là, justement, on observe trop d'atteintes aux droits. Si je vous prends juste la question des enfants, je voudrais vous parler des lycéens sans lycée. À la rentrée de septembre 2022, on découvre qu'un certain nombre de lycéens, donc admis en seconde, ne sont pas scolarisés, n'ont pas d'affectation dans des lycées. Et donc, on part en enquête, on a des pouvoirs d'enquête, je m'auto-saisis, et on demande les chiffres exacts à l'Éducation nationale qui n'avait pas de chiffres globaux. Qu'est-ce qui ressort? C'est qu'en septembre 2022, c'était 18 000 jeunes qui n'étaient pas affectés, soit en seconde, soit en première, soit en terminale. Rentrée 2023, c'est 27 000. Et on cherche à comprendre pourquoi. Et entre autres, on découvre que les deux tours d'Affelnet ont lieu début juillet, mais le dernier a lieu fin août. Du coup, fin août, ce qui fait qu'il y a des élèves qui ne sont intégrés dans des lycées que, parce que dans les 27 000, au bout d'un moment, ils sont scolarisés, mais courant septembre ou octobre. Donc, ils démarrent l'année avec un mois, six semaines de retard. On a demandé, j'ai eu des échanges avec le ministre de l'Éducation, avec le président de la République, et on a demandé que tous les tours d'AffelNet aient lieu en juillet. Il y a une circulaire qui va faire ça. Donc, voilà des avancées qu'on arrive à obtenir. On va voir à la rentrée septembre 2024 quel en sera le résultat exact. Parce qu'on n'a pas non plus obtenu tout. Parce qu'en fait, il faut à la fois ces tours d'AffelNet, vous savez, c'est comme Parcoursup dont vous vous enregistrez sur Internet. Mais il faut aussi, au bout d'un moment, un rendez-vous physique. Il faut pouvoir voir quelqu'un quand votre enfant n'est pas affecté dans un lycée. Et c'est ça qui manque dans tous ces services publics. C'est pas la question de la dématérialisation, c'est le fait de ne pas pouvoir aller voir quelqu'un au bout d'un moment.
Ce qui est un petit peu lié quand même.
Mais vous parlez oui, de... mais on peut, enfin, vous voyez bien que pour une partie de la population, la dématérialisation peut faciliter les démarches. Le seul problème, c'est que ou quand ça bug ou quand on est en difficulté avec le numérique, il faut avoir un rendez-vous avec quelqu'un ou pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil qui peut traiter votre dossier.
Vous parlez des enfants parce que c'est l'une de vos prérogatives particulières. Il y a aussi le contrôle de la déontologie des personnels de sécurité. Vous avez ouvert une enquête après la mort de Naël Merzouk fin juin. Où en est-elle? Quelles sont vos conclusions?
Alors, pour ce qui est du décès Naël, effectivement, on s'est auto-saisi. Hein. C'est dans nos possibilités, parce qu'on se doute bien que la famille de Naël ne nous connaît pas forcément, et donc c'était important pour nous de nous auto-saisir. Là, l'instruction d'abord de la justice est en cours, donc nous, on doit demander à la justice l'autorisation d'instruire, c'est dans la loi organique, c'est quelque chose qui est demandé, et il est normal que la justice fasse d'abord son travail, et nous, on ira enquêter. Et on n'ira pas tout à fait sur le même domaine, nous, on va aller vraiment sur la partie déontologie et respect de la déontologie des forces de sécurité, on n'ira pas sur la partie pénale qui est devant la justice.
Et là, les conclusions de l'enquête, du coup.
Ah, ça va mettre du temps, ça, je ne vous le cache pas.
Pour finir, Claire Hédon, un mot sur vos capacités d'action, vous en avez un tout petit peu parlé. Dès qu'on se sent lésé, on peut vous saisir, vous pouvez vous auto-saisir. Et ensuite, qu'advient-il des situations d'injustice que vous identifiez? Est-ce que vous les portez devant les tribunaux?
Alors, non, pas nous, mais par contre, les personnes peuvent les porter devant les tribunaux. Et on a la possibilité de faire des observations devant les tribunaux, ce qu'on appelle en qualité d'amicus curiae, d'amis de la cour, c'est-à-dire qu'on est représentant d'aucune des deux parties. Mais on apporte des éléments et comme on a de forts pouvoirs d'enquête, c'est ça qui est intéressant. Je vous l'ai dit, majoritairement, on agit en médiation. Quand ce n'est pas possible, on rend des décisions, on peut faire des observations devant les tribunaux. Donc, une grosse partie de notre travail, c'est de régler ces réclamations qu'on reçoit. Mais l'autre partie, la loi organique, elle est très claire. Nous sommes là aussi pour promouvoir les droits et les libertés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir des difficultés qu'on observe, on fait un certain nombre de recommandations au pouvoir public, au Parlement. Je rencontre les ministre et je vais présenter ce rapport en commission des lois à l'Assemblée nationale, au Sénat, au président de la République et pour faire justement un certain nombre de recommandations.
Et cette année, vous êtes même allée jusqu'au Parlement européen. Merci beaucoup, Claire Hédon. Je rappelle que vous êtes la défenseure des droits. Merci.